Vous écoutez
RMC. 9h midi, les grandes gueules du sport en direct du MotoGP de France.
Georges Quirino.
Sous la grisaille, ici au Mans, au-dessus du circuit Bugatti. Attention, hein, les conditions pourraient être un peu compliquées pour le départ du MotoGP à 14h tout à l'heure. On est avec Marc Madio, on est avec Fred Weiss, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, ici jusqu'à midi, donc sur ce circuit, un an après la victoire de Johan Zarco. On a plein d'invités qui vont nous rejoindre dans un instant. Quartararo partira 5e, je vous rappelle, Zarco 10e, la pole position pour Bagnaia sur sa Ducati devant le leader du championnat, Bezzecchi, sur sa Aprilia. On est au cœur du circuit, évidemment. Tiens, un fameux Quartararo qui nous parle de l'ambiance particulière ici au Mans devant plus de 300 000 spectateurs.
C'est la première fois que je m'amuse en course, où j'arrive un petit peu à, pas dire me battre, mais à, au moins à rester avec les autres pilotes. On sait où on perd exactement, mais au moins j'arrive à pousser à 100% et à me sentir à la limite. Je pense que c'est intéressant de juste donner le maximum, pas se concentrer sur un résultat comme aujourd'hui. Juste essayer de faire un bon départ, des bons premiers tours et voir quel résultat on peut faire.
Voilà, Fabio Quartararo, alors qu'on est dans une saison difficile pour nos pilotes français en MotoGP, qui a terminé 5e hier et qui nous donne peut-être de l'espoir aujourd'hui pour la course à 14h qui sera commentée sur RMC par Nicolas Paolorsi, et avec des conditions peut-être un peu difficiles, ça peut rebattre complètement les cartes, comme lors de la victoire de Zarco l'an passé. Tiens, dans un instant, on sera avec le président de la Fédé française de motocyclisme, Sébastien Poirier. Est-ce que la MotoGP mérite autant de reconnaissance que la Formule 1? On est tous un peu marqués en venant sur le circuit là, de voir évidemment toujours le nombre de fans qui viennent ici sur le circuit. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la première heure des Grandes Gueules du Sport en podcast. Évidemment, en fin d'émission, participez au jeu avec vos GG. Christophe a gagné hier, donc là, il est sur une série
de victoires.
T'as déjà fait une série de victoires ou pas?
Oui, facile. Quand il n'y a pas Bennett, je gagne régulièrement.
Facile. Le problème, c'est quand t'annonces la couleur, souvent, ça te réussit.
Non, mais là, je vais perdre. Non, parce que je sens.
Fred a tellement travaillé, a tellement bossé sur les GG.
Moi, toute la nuit, j'ai tout révisé. Là, bien sûr.
Ah ouais, bien sûr. En fin d'émission, donc, vous participez pour remporter votre enceinte portable minotée au design épuré de Lexon, qui peut se transporter partout grâce à son
mousqueton.
Je regarde la course. Je regarde les images que l'on voit. C'est magnifique,
Fred.
Sarah. Voilà.
Mais Fred,
il n'y a pas que des mousquetons dans la vie.
On va partir d'ici. Fred sera un biker.
Je suis à deux doigts d'être un biker.
En plus, c'est à regarder un motard qui a une tenue avec écrit Fred dessus.
Freddy Spencer,
bien sûr, légende de la
moto. Voilà, c'est un ancien champion du monde.
Bien sûr, ben oui, il y a des légendes ici. Il n'y a pas que les grandes gueules du sport qui sont elles-mêmes des légendes. Donc appelez le 3216 touche 4 ou envoyez Sport au 732-16 pour participer au jeu. Mais d'abord sur le ring, du tennis, c'était pas prévu, mais on a changé un peu le programme hier soir très tard parce qu'à 2 semaines du tournoi, peur sur Roland Garros.
RMC, le ring des GG.
Elle est dedans. Sur le coup droit d'Arthur, c'est bien.
Il prend le temps.
Mounar, non, elle est sauvée. Et prend la bande.
C'est gagné.
C'est peut-être lui le troisième homme derrière Sinner et Alcaraz.
On a compris que c'était pas possible que je joue contre Rublev, donc c'est pour ça que je fais forfait.
Allô maman bobo.
Et oui, on est inquiets ce matin, les amis, parce que vous avez entendu la petite production. Là, on commençait à s'enflammer derrière Arthur Fils. Mais c'est vrai qu'on n'a pas passé une bonne soirée hier quand on a vu qu'à 2 semaines de Roland, Fils a été contraint à l'abandon dès son entrée en lice au Masters 1000 de Rome. Le Français diminué n'a pas été en mesure de terminer sa rencontre du deuxième tour face à Andrea Pellegrino. Depuis son retour de blessure au dos il y a 3 mois, le numéro 1 tricolore, 4e à la race, crève l'écran sur terre battue avec un titre à Barcelone, une demi-finale au Masters 1000 de Madrid la semaine dernière. Léger, je vous pose la question, tiens, oui ou non d'abord, le Français qui abandonne à 2 semaines de Roland Garros, est-ce que c'est alarmant, tout simplement, Sarah?
Non, je vais pas aller sur le alarmant.
Christophe?
Non, tout va bien, quoi.
il me regarde, mais j'ai l'impression qu'il va m'étrangler.
Tout va bien, le mec, il est forfait à 15 jours de Roland Garros, tout va bien.
Non, mais il y a forfait.
C'est la meilleure prépa possible, quoi. Marc?
Après, tout dépend de la nature de la blessure. Si la blessure n'est pas grave, ça n'est pas alarmant.
Frédéric?
Non.
Vous, sur le compte X des grandes gueules du sport, pour l'instant, vous dites oui, c'est alarmant à 73%, évidemment, les fans inquiets, parce que, en plus, avec le forfait d'Alcaraz et la domination de Sinner, c'est un peu le feuilleton qu'on attend, hein, le Roland Garros.
Heureusement, il y a Loïs Boisson.
Et heureusement, il y a Eric Salieu, notre voix du tennis sur RMC, qui le rejoint. Salut, Eric.
Salut à tous.
Oh là, Eric, j'imagine,
Eric,
nuit blanche.
Il est en déprime, là.
Ah ouais, là, Eric.
Ouais, j'ai connu les meilleurs dimanches matin, je vous l'avoue.
Ah ouais. bon, non, mais en vrai, c'est pas drôle du tout, hein, parce que non, ce qui se passe là autour d'Arthur Fils. Qu'est-ce qu'on sait ce matin de la nature de sa blessure, Eric ?
Donc, il a abandonné au bout de 20 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, la précision est importante, c'est qu'il n'est pas venu à la rencontre des journalistes. C'est-à-dire que, comme un joueur en a le droit après un abandon, il a zappé la petite séance. Et c'est donc le responsable de l'ATP, Nicolas Arzani, qui est allé dans le vestiaire et qui a recueilli quelques phrases. Je vous les livre parce qu'elles sont importantes, puisqu'on n'aura rien de plus de la part d'Arthur Fils. Pendant le match, j'ai senti une douleur à une hanche au deuxième jeu. J'ai appelé le kiné pour pouvoir essayer de le soigner, mais ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, j'ai dû arrêter après. Là, je vais faire des soins. On va parler avec l'équipe et on va prendre des décisions. Mais il fallait juste ne pas prendre de risques avant Roland. Et c'est pour ça que j'ai abandonné. Les conditions de jeu étaient très moyennes. Il faisait froid. C'était la nuit. Et ça rappelle les conditions de jeu de l'an passé face à Zverev, où on avait su, après coup, qui s'était blessé face à Zverev, donc déjà à Rome, au Foro Italico, dans les mêmes circonstances de jeu, donc c'est ça qui est inquiétant. Alors là, on parle de la hanche, bon, c'est quand même une zone qui se rapproche du bas du dos, si j'ai bien travaillé dans mes études, donc évidemment,
a priori, ouais.
on est forcément inquiet. Bon, maintenant, il reste 15 jours. 15 jours, c'est à la fois beaucoup et peu. Faudra pas se tromper dans le diagnostic. C'est pas encore perdu, mais c'est vrai que c'est un abandon qui est très très embêtant à 15 jours de Roland, surtout quand tu as une dynamique comme Christophe dans les jeux là. C'est non mais c'est parfait là. Non mais vous avez vu, Georges l'a dit, victoire à Barcelone, demi à Madrid. Il a eu 8 jours pour digérer Madrid. Bon, on l'a vu avec Sinner, ça suffit. Mais donc, je pense que les conditions de jeu l'ont pas arrangé.
Eric, tu restes avec nous, évidemment. Est-ce alarmant, donc la blessure? On a compris que dans tes mots, toi, t'es inquiet, tu l'as dit très clairement, Eric. Sarah, c'est quoi? C'est que tu te refuses d'être trop alarmiste pour l'instant pour Arthur Fils?
Disons que la maison ne brûle pas, donc on ne va pas commencer.
Un départ d'incendie, quand même.
On n'en sait rien, en fait. On ne va pas commencer à spéculer sur des choses qu'on ne sait pas. Je pense que depuis ce qui lui est arrivé. Donc l'an dernier, avec cette fracture de fatigue au dos, il a appris à mieux connaître son corps, à gérer, puisqu'il avait repris trop tôt l'été dernier sur le circuit américain, ce qui lui avait valu encore 6 mois d'arrêt. Donc je pense que Arthur, après je ne présage pas de la blessure, peut-être que c'est grave, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il arrête au bout de 4 jeux et qu'il essaye même pas, c'est qu'effectivement il est plus dans la précaution de se dire que ok, j'ai un objectif qui est Roland Garros, je ressens une petite douleur.
C'est aussi un peu son expérience désormais à Arthur Fils maintenant, de connaître un peu plus son corps. Et peut-être que ça peut être d'une certaine façon une preuve de maturité ou un bon signal d'arrêter à temps, pour pas tout mettre en danger.
Et puis c'est un joueur qui a beaucoup joué depuis le début de l'année. En 3 mois, il a fait 33 matchs, il a 27 victoires. La confiance, il l'a. Les repères sur terre battue, il les a aussi.
Il a sa position aussi au classement.
Il est 17e mondial.
Rien ne va être remis en cause de par ce qu'il s'est passé à Rome.
Exactement. Donc là, le temps qui va être pris, c'est pour effectivement soit voir quelle est la vraie nature de cette blessure. Ça peut être une contracture, ça peut être une petite déchirure, ça peut être une petite élongation. Enfin, je veux dire, ça peut être des choses qui sont soignées.
Ça peut aussi être une blessure diplomatique.
Non.
Bah, je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr qu'il aurait commencé si c'était une blessure diplomatique. Il suffisait qu'il se présente pas, en fait.
Non, mais dans quel sens tu veux dire, Marc?
La diplomatique, non. Dès que tu
ressens
un petit peu, mais
dès que tu ressens, tu
la blessure diplomatique, c'est il a fait son programme par rapport à Roland Garros.
Il serait pas rentré sur le court. Il aurait pu zapper le tournoi directement en disant. Oui, bien sûr.
Mais t'es obligé d'aller te faire inspecter quand même par un médecin de.
Parce que les raisons pour lesquelles tu.
En fait, en allant, alors j'étais un peu tordu.
Eric est toujours là. Eric Salieu.
En allant sur le tournoi, il participe au premier tour. Il touche ses gains et ses prix par rapport à sa participation au premier tour, on est d'accord.
Oui, tout à fait.
S'il déclare forfait et qu'il vient juste là-bas pour ça, il touche pas ses prix.
Oui, mais il est plus à sa prête.
Il est plus à 20 000 euros près.
C'est pas une.
Non, il s'est entraîné. Il est sur site depuis 4-5 jours. Il a même collé un 6-2 à Novak Djokovic. Tous les clignotants étaient ouverts.
Dans une partie d'entraînement.
Oui, un entraînement qui était suivi par des milliers de personnes. Non, tous les clignotants étaient ouverts. il a pris une décharge, il a pris un coup de couteau, j'en sais rien, mais en tout cas, souvent on a une petite alerte à la cuisse, et c'est vrai que tu te dis, si t'arrêtes à temps, t'évites la déchirure. Si c'est qu'une contracture, ça va. 15 jours, c'est beaucoup. Mais faut pas que ce soit plus grave que ça, bien sûr, parce que Roland, c'est une épreuve du combattant, quoi. Faut tenir 15 jours et match en 5-7.
Le match d'entraînement de Djokovic fils, maudit, hein, parce que Djokovic aussi pas très bien éliminé.
Mais ça ressemble un peu à un principe de précaution, enfin, en tout cas.
C'est ce que dit Arthur.
Moi, j'ai l'impression que
c'est. Il a même été blessé pendant très longtemps.
Non, mais je suis d'accord, oui, mais c'est pas au même endroit. Là, j'ai l'impression qu'il connaît mieux son. C'est pas très loin, mais c'est pas le même endroit exactement. Donc, ça peut être une compensation. Donc, sur une compensation, ça peut être une contracture. Et à partir du moment où c'est une contracture, se dire que je ne force pas dessus parce que maintenant je connais mon corps, parce que je connais le chemin, parce qu'effectivement je n'ai rien à perdre.
Parce que je suis prêt pour Roland.
Parce que je suis prêt, parce que j'ai montré sur terre battue que j'étais prêt, que de toute façon je suis positionné où je voulais être positionné. Ben, c'est peut-être un signe de maturité. Moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment appris sur lui, ce garçon, qu'il connaît mieux son corps et que, au contraire, j'ai envie de dire, c'est rassurant pour le reste de sa carrière.
Souvenez-vous, il avait zappé Monte Carlo.
Est-ce qu'il n'en a pas fait un peu trop, justement, là, avec ce retour au printemps? Il a disputé, il est allé très loin dans tous les tournois. Quand tu reviens quand même d'une blessure qui a été longue, on sait que c'est un garçon qui est quand même considéré comme fragile. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être faire une semaine sur deux, Eric?
Il a pris des points à Madrid qui sont déterminants pour Roland Garros.
Il les avait, les points.
Mais qu'est-ce qu'on aurait dit s'il ne s'était pas présenté à Rome?
Premiers à dire qu'il a fait une impasse gagnante en ne jouant pas à Monte-Carlo. Pendant ce temps-là, il a bossé pendant 4-5 jours à Cap d'Ail. Monte-Carlo, donc il n'a pas joué. Il a joué Barcelone, il le gagne. Dans la foulée, il y a Madrid. Mais comme je l'ai dit, Madrid, la demi-finale, il l'a joué le vendredi. Donc il a eu 8 jours pleins pour récupérer. Sinner est dans la même situation. Sinner, il a coupé pendant 3 jours. Donc
il est pas reparti lundi au Foro Italico pour jouer.
Il a eu le temps
déjà jouer.
De se reposer.
C'est un robot. Le mec, il sera jamais blessé. Il est incroyable.
C'est jamais. Méfie-toi. Ouais. Non, mais je pense que Rome, de toute façon, c'est un tour qui est obligatoire. Bon, mais effectivement, tu peux te retirer à tout moment. Tu prends un zéro dans ton classement, mais à la rigueur, on s'en fiche.
On s'en fiche.
Il joue pas pour le classement, puisque vu sa position, on sait qu'il pourra pas avoir le statut de tête de série numéro 12. Donc non, il fallait qu'il joue. Il se sentait bien, quoi. Quand t'es dans une telle dynamique, et puis je l'ai dit, il était sur place depuis quelques jours. Il a collé un set à Djoko. Je pense que c'était piégeux. C'était un traquenard avec les conditions de jeu qui étaient. Il faisait froid, c'était la nuit, et voilà, il est fragile.
On en a déjà parlé un peu ici ces dernières semaines, mais voilà, quand il y a un événement d'importance, l'événement le plus important de ta saison qui arrive dans quelques semaines, est-ce que parfois t'as pas tendance, comme l'a fait Arthur, à lever le pied, voilà, à lever le pied, à pas forcer.
Comme
on le voit avec certains joueurs de foot là qui à l'approche de la Coupe du Monde font un peu plus attention, ne force pas pour revenir, comme Yamal, comme Mbappé.
Il faut une certaine maturité pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que être capable de se dire, je vais me préserver, je fais attention, je sens une douleur, je sens une pointe. Je sais qu'il peut y avoir un risque. Moi, je trouve que, encore une fois, pour moi, c'est plutôt encourageant de me dire qu'il a arrêté avant peut-être le point de rupture.
Marc, il n'y a pas eu des avant des courses importantes, je ne sais pas, avant un Roubaix, avant un Tour de France, des championnats de France, où tu t'es dit, est-ce que ça sert vraiment que je fasse les 250 bornes, alors que l'important, c'est que je sois en forme, surtout sur l'événement qui arrive. Ça arrive.
Ouais,
peut-être pas toi, mais ça arrive.
Ça peut arriver, oui, mais c'est compréhensible qu'on puisse se dire, je suis prêt, je suis au top, ça fait déjà un long moment où je suis au meilleur de ma forme. Peut-être qu'il faut que je me préserve et me réserve un petit peu pour l'élément déterminant que va être Roland Garros.
Par exemple, on parlait de Thibaut tout à l'heure, de Thibaut Pinot. Est-ce qu'il a besoin de faire un critérium du Dauphiné à 10 000% avant un Tour de France?
Tout dépend où il en était dans le cheminement de la saison. S'il en a besoin ou moins besoin que d'autres. Chaque année, chaque situation est différente, donc il faut s'adapter au moment et à la situation. C'est pour ça que je disais peut-être que c'est une blessure diplomatique, parce que ça pouvait l'arranger, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas.
Appelez-nous au 32-16 évidemment pour réagir, parce que vous êtes inquiet pour l'instant.
En sport, on se rend bien compte qu'il y a des moments où les gens font des impasses. Regardez le PSG, les joueurs du PSG avant le match contre Munich, ils ont fait des matchs où ils ont joué à 50 ou 60% du temps et ils étaient prêts pour...
Le sport est devenu tellement exigeant.
Voilà, tellement
que parfois,
c'est pour ça que je posais la question.
Du repos,
peut-être que lui et son staff ont décidé et jugé.
Ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, on est
le moment de se dire, on prend pas de risque, j'ai une petite gêne. Oh.
Non mais pour le coup, Eric, toi t'as observé le match avec attention sur le comment se passe également le moment où il décide d'arrêter. Qu'est-ce qu'on voit dans l'attitude d'Arthur ? Et on voit de la douleur, on voit au contraire une volonté de pas prendre de risque, comme il le dit dans ses mots derrière. Qu'est-ce qu'on peut traduire ?
J'ai échangé ce matin avec l'envoyé spécial de l'équipe en WhatsApp parce qu'elle était sur place. Et il y a une scène qui l'a marqué, c'est que le match était programmé tout au bout du stade, sur la piste d'athlétisme, près du stade olympique de foot. Et quand les joueurs terminent leur match, ils prennent une petite voiturette de golf. Et là, elle a assisté à la scène où Arthur s'est engouffré dans la voiture de golf avec son papa. Et ce qui l'a frappé, c'est que les visages étaient très très graves, quoi. Donc ça m'inquiète, tu vois. Tu sens que quelque part le ciel leur est tombé sur la tête, quoi. Voilà. Moi, je l'interprète comme ça. Maintenant, s'il a pris un coup de couteau, un coup de poignard, ça c'est embêtant. Maintenant, oui. L'image. Vu son expérience, il a peut-être senti un truc et hop, stop pour les machines avec. Il a revu les fantômes de ses blessures. Effectivement, c'est peut-être une décision sage, mais pour l'instant, personne n'en sait rien.
Mais c'est pas anodin, quand même. En fait, le truc, c'est que maintenant.
On peut pas savoir. Évidemment, quand tu t'arrêtes comme ça, et évidemment que ça peut ne pas être anodin.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, depuis son retour, tout marchait bien, physiquement. Forcément, j'imagine que quand on a un petit pépin qui revient physiquement, où on est quand même encore un peu traumatisé, je pense, par la durée de l'absence, c'est pas neutre. Ça va compter dans sa préparation au Roland Garros, quoi qu'il arrive.
Justement, je pense que si c'est ça, peut-être qu'il s'est dit il vaut mieux que j'arrête maintenant parce que je peux envenimer les choses, parce que je connais le chemin, parce que je sais que ça peut être plus dur. Mais en même temps, ça peut être aussi j'ai tellement mal qu'il vaut mieux que j'arrête. Donc,
parce que là, on parle, Sarah, de s'engager maintenant dans un Roland Garros, dans des matchs en 5-7, dans un monde inconnu, d'essayer d'aller peut-être en deuxième semaine, exactement.
On est d'accord, mais c'est pour ça que j'entends ce que tu dis, Eric, en disant les mines fermées. Mais encore une fois, là, on est en train de faire
on spécule
des plans.
Là pour l'instant.
Oui, on fait des plans sur la comète.
Mais là, ce matin, on réagit à l'urgence qui s'est présentée à nous et qui inquiète tout le monde.
À chaud, c'est sûr qu'à chaud, tu sors, tu dis j'ai senti quelque chose, il n'a pas voulu prendre de risque, ils vont pas avoir la mine juste normale. Il y a une inquiétude. L'inquiétude, elle est là, c'est sûr, il va falloir faire des examens.
Et surtout après avoir travaillé dans une dynamique positive depuis des semaines et des semaines.
Et exactement. Et le physique, c'est quelque chose. Enfin, il y a aussi l'antécédent de cette année. Cette année qu'il a vécue, sur lequel il a dû travailler émotionnellement et de la manière dont on l'a retrouvé, c'est exceptionnel. Et puis, il faut aussi savoir que dans son chemin de réhabilitation depuis un an, il y a eu un accident, c'est-à-dire qu'il a repris trop tôt. Donc, il a su ce que c'était reprendre trop tôt. Donc, je pense que tout ça, à un moment, quand tu sors du cours, à chaud, oui, tu l'as sur les épaules. Et il y a cette inquiétude parce qu'il y a ton tournoi. Ça veut dire, il y a Roland Garros qui arrive à 15 jours.
Mais surtout, donc, Sarah, tu sais comment ça se passe ? C'est que quand tu as été blessé aussi longtemps, quand t'as une blessure, quelle qu'elle soit, même si c'est anodin, dans ta tête, tu commences à cogiter, tu commences à dire, est-ce que je suis retombé dans cette galère absolue? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir?
Ça te fragilise, forcément.
Évidemment.
Moins mentalement.
Donc,
c'est pour ça que quand
c'est difficile d'avoir un jugement. Donc, effectivement, d'un côté, ça peut être, je prends pas de risque, je suis en principe de précaution, je préfère m'arrêter à temps, ou ça peut être grave et je sais
c'est
pas
ce qu'il en est. C'est pour ça que quand Marc dit c'est diplomatique, en fait, c'était pas vraiment ça. Mais est-ce que finalement, ce qu'il a ressenti, c'était peut-être vraiment très minime et avec cette peur de se dire je veux pas me reblesser, que finalement, il a arrêté tout de suite, quoi. Sans même. Parce que quand il dit en cas de jeu, le médecin essaie de me soigner, mais ça a pas marché. Enfin, en cas de jeu, il a même pas essayé, quoi, ce que je veux dire. Donc peut-être que dans sa tête, il y a eu aussi cette crainte de se dire. Ouh là là,
non mais c'est ça.
C'est pas un garçon qui abandonne facilement, Sarah. Hein. C'est seulement le deuxième abandon de sa carrière.
Hein. T'as raison, mais il y a l'antécédent.
Oui.
Il y a l'antécédent dans ce qu'il a vécu.
C'était un traumatisme en fait. C'était un traumatisme ce qu'il a vécu.
Marc, je te voyais acquiescer ce que disait Fred sur l'importance du mental. Parce que là, effectivement, on connaît pas vraiment la nature de la blessure physique. Mais mentalement, en fait, c'est hyper important ce qui se passe.
En fait, on parle. Mais il y a que lui qui sait.
Bah oui.
Exactement. Et encore, il
fait encore. Et encore. C'est les examens qui sont déterminés.
Et je pense qu'on n'aura pas de nouvelles. Ils vont rester aussi très discrets. Que ça soit grave ou pas grave, je pense que ça va rester vraiment dans la sphère de l'équipe d'Arthur Fils et ils vont tout faire pour que ce soit là, mais je pense qu'on n'aura pas de nouvelles d'ici
comme ça à 15 jours de Roland Garros. Eric, c'est important cette période, tu dois jouer régulièrement pour essayer de conserver le niveau, conserver ton rythme. Est-ce que s'il ne joue pas pendant 10 jours, ça peut être vraiment préjudiciable pour la suite?
Ce qui va être important, c'est la semaine précédente Roland, d'ailleurs, qui vient de faire des entraînements sur le central ou sur le cours Suzanne Lenglen. Si on ne le voit pas pendant les premiers jours des qualifs, là on va s'inquiéter. Mais ouais. je suis un peu d'accord avec Sarah. Ils vont, c'est pas, de toute façon c'est, ils communiquent pas énormément la team d'Arthur Fils. Mmh. Ils ont leur raison. Donc oui, je pense qu'ils vont être silencieux pendant quelques jours et on va guetter son.
Et alors
son
j'ai une question bête et idiote. Pourquoi ils communiquent pas son staff?
C'est un choix.
On veut pas donner de signes, ils veulent pas donner de signes aux adversaires, ils veulent pas que les gens spéculent.
Ah, mais c'est. Non, mais aujourd'hui, Marc, t'es le premier à dire à tes coureurs ne mettez rien sur les réseaux sociaux pour pas donner d'informations.
Bien sûr, non, mais je
Novak Djokovic,
fais
pareil, Marc.
Et Sarah, moi, j'ai une question. Tu dis, pour pas que les gens spéculent, bah, tu spécules plus quand tu sais pas que quand tu sais, en fait.
Oui, mais pas donner d'informations à l'extérieur, pas inquiéter.
Mais après, tu peux aussi faire fuiter par un autre chemin.
Ah, voilà, on sent l'expert.
On sent l'expert.
Je comprends mieux maintenant quand on allait le voir au les interviews, ils nous regardaient comme ça de loin. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis machiavélique. Merci Eric Salio, évidemment, hein, on reste connecté. La moindre information sur l'état de santé d'Arthur Fils et on en parle
on
dans les grandes vidéos.
On va surveiller son compte Instagram, oui.
Et évidemment, bien sûr. Est-ce alarmant pour Arthur Fils qui abandonna deux semaines de Roland Garros? Vous dites oui à 77% sur le compte X des grandes gueules du sport. On est sur le circuit du Mans sous la pluie. Nicolas Paul Orsi, notre reporter autour de la piste, qui va nous commenter la course tout à l'heure. Alors déjà décris-nous les conditions là, toi. Merci d'avoir
regardé
la pluie. Est-ce que tu vois? Salut Nico.
Il est très content là, il était tranquille en studio, il dit tiens, va nous raconter ce qui se passe sur le circuit.
Ah bah là, pour rien vous cacher, je suis allé m'abriter sous le stand de la boutique Johann Zarco et je suis avec Corentin le vendeur. Corentin, première question, est-ce que tu as des parapluies Zarco? C'est très important pour la suite de ma journée.
Alors c'est la question que tout le monde me pose, mais non, nous n'avons pas de parapluies Zarco pour le plus grand désespoir de tous ces fans malheureusement.
Non, parce que la météo là est en train de se dégrader, c'est une bonne chose pour nos pilotes français, on le disait, hein, parce qu'ils peuvent vraiment produire un exploit sur le mouillé. Là ça va être des conditions très spéciales pour cette course. Corentin, on va revenir un petit peu sur cet engouement autour de Johann Zarco. C'est vrai que moi, je suis passé de voir hier samedi avant les qualifs. Tu me disais déjà, on est dévalisé. C'est dingue ce qui se passe autour de Johann Zarco et l'ambiance globalement qu'il y a autour de ce Grand Prix de France.
Ah, c'est sûr, c'est dingue. On voit vraiment qu'il y a une grosse fan base qui existe, qui viennent à foison, j'ai envie de dire, pour se déchirer ses t-shirts, les pulls, tout ce qu'il y a autour de lui. Il a vraiment, je pense, une grosse fan base qui l'attend aujourd'hui, même avec les conditions qu'on veut voir. Ils sont tous là pour vous dire, il y en a même qui espéraient qu'il pleuvait pour qu'on... On espère que se reproduise ce qui s'est passé l'année dernière. Donc ouais, vraiment, il y a eu un énorme engouement autour de Zarco.
C'est une idole, ça te surprend toi de voir ça quand même?
Bah, c'est quand même surprenant de voir tout ce flux arriver comme ça, de voir des enfants qui sont là, ils ont le magnète dans les mains, ils ont les yeux qui pétissent. Et c'est beau à voir. Et je pense qu'il peut être à la fois reconnaissant et pour nous, c'est hyper impressionnant de voir ça, de voir qu'il y a un idole comme ça, et un idole français surtout. C'est beau à voir.
Merci beaucoup Corentin. Bah, vous voyez, tout le monde y croit. Johann Zarco, bien évidemment, c'est un petit peu la coqueluche, bien sûr. Hein. Il y a aussi des t-shirts bleus, Yamaha, Fabio Quartararo qui est cinquième sur la grille de départ. Et on a hâte de voir ce qui peut passer avec ces conditions météo, parce que je vous avoue que là, ça va être spectaculaire cette course.
Voilà, et si vous croisez quelqu'un avec un pancho rouge RMC et un parapluie et Johann Zarco, c'est Nicolas Paul Orsi, notre reporter. Voilà, qui sera là. Merci Nico, à tout à l'heure. Effectivement, là, il y a la parade des pilotes en ce moment sur la piste. C'est sous des trompes d'eau. Hein.
Défilé
de parapluie, exactement. Mais ça va certainement nous permettre d'avoir une course spectaculaire tout à l'heure à 14h avec Johann Zarco et Fabio Quartararo. Tiens, dans un instant, on va parler moto justement. Est-ce que la moto mérite autant de reconnaissance que la F1, la MotoGP? On sera avec le président de la Fédération Française de Motocyclisme, Sébastien Poirier, pour en parler depuis Le Mans. Appelez-nous au 3216 pour participer. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport, en direct du Mans.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport depuis le circuit Bugatti où les parapluies sont sortis mais où une éclaircie est en train de se rapprocher. J'ai envie de dire que les conditions seront changeantes peut-être aujourd'hui sur le circuit et le Grand Prix MotoGP tout à l'heure à 14h à suivre sur RMC. Il y a évidemment la Moto2, la Moto3. Ce matin ça va s'élancer dans quelques instants mais on va suivre bien sûr nos Français en MotoGP. Quartararo 5e, Zarco 10e après sa victoire l'année dernière dans des conditions de la pluie, justement. Donc ça va être intéressant de voir ce que nos Français vont être capables de faire aujourd'hui. On est toujours avec Fred Weiss, avec Marc Madiot, avec Christophe Cessieux, avec Sarah Pitkowski. Et on accueille dans notre studio ici, sur la ligne de départ arrivée dans la tribune, Sébastien Poirier, le président de la Fédération Française de Motocyclisme. Bonjour Sébastien.
Bonjour à toutes et à tous.
Et bienvenue dans les grandes gueules du sport. Bon, je vous le disais pendant la pub, un peu en rigolant, vous êtes content de voir que les conditions se compliquent. Ça doit rappeler des bons souvenirs de l'année dernière avec la pluie, la victoire de Juan Zarco.
C'est clair qu'on a quitté Le Mans l'an passé sur un moment de sport extraordinaire, hein, comme on en vit très très rarement. Et donc on a envie de la revivre, ce moment d'émotion. C'est clair que les conditions météo changeantes sont plutôt à l'avantage de Johan, puisqu'il aime, il adore rouler sur la pluie, il est très très performant. Fabio, je pense qu'il peut aussi s'adapter, mais c'est vrai que ces conditions vont être très compliquées pour les pilotes parce qu'ils ne sont pas du tout entraînés sur la pluie. Et donc là, on peut avoir de très très belles surprises, ouais.
Des belles surprises. On espère aller voir sur ce circuit à 14h tout à l'heure pour le Grand Prix de MotoGP. Alors, on vous a invité aujourd'hui. On voulait parler notamment de la comparaison qu'il peut y avoir. Alors, c'est toujours une ficelle un petit peu facile, hein, entre les sports mécaniques et notamment la Formule 1 et la MotoGP. On sait que les deux disciplines font des audiences monstrueuses, hein, sur Canal+ depuis quelques années maintenant. On se demandait si la MotoGP méritait autant de reconnaissance que la Formule 1. Alors vous allez me dire, vous êtes pas très objectif forcément. Vous êtes le président de la Fédération française.
Une question.
Si vous répondez non, je vous respecte.
Non mais regardez. Par exemple, on va être tout à fait transparent avec Fred et moi-même. C'est la première fois qu'on vient sur un circuit moto en France. Évidemment, actuellement, il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 depuis quelques années. On a un Grand Prix MotoGP. C'est vrai qu'on est subjugué par la communauté que ça draine. On le disait, plus de 300 000 spectateurs.
L'engouement,
c'est assez incroyable. Voilà. Enfin, est-ce qu'on sous-estime parfois en France la passion moto qu'il y a finalement dans ce pays? C'est vrai qu'on met beaucoup en valeur la Formule 1, le rallye peut-être. Est-ce qu'on sous-estime la moto un peu?
Écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le sport, enfin la moto et les sports mécaniques, ce sont des sports populaires. Quoi qu'on en dise, l'Enduropole des Touquets, c'est plus de 300 000 spectateurs. Le Grand Prix de France de vitesse, on est à plus de 300 000. Le motocross, l'enduro, tout ça, il y a une popularité, c'est plus de 4 millions d'utilisateurs en France d'un deux roues motorisées. Donc oui, on a un sport populaire, on a un sport qui rayonne et on a un sport qui fait vivre nos territoires. On a eu l'occasion de faire des études économiques avec l'automobile là-dessus. On a la chance d'avoir un impact de plus de 2,5 milliards en France à travers nos compétitions moto. C'est une économie, c'est pas délocalisable. Et donc, pour moi, c'est plutôt une chance, et c'est même une chance pour notre pays, que d'avoir des sports mécaniques forts et évidemment un sport moto très très fort. Moi, je suis très fier d'être président de la Fédération Française de Moto parce que je sais ce que notre sport apporte à notre pays.
Et alors, qu'est-ce que ça change quand vous êtes président de la Fédération Française de Motocyclisme d'avoir des locomotives comme Juan Zarco et Fabio Quartararo? Alors Fabio a été champion du monde il y a quelques années. C'est vrai que bon, après les sports mécaniques c'est comme ça, hein, parfois on est dans des séquences où la mécanique est un petit peu moins bonne, mais Juan a gagné l'année dernière. Juan Zarco qui gagne sur un Grand Prix de France, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour les passionnés et pour et bien ce que ça apporte derrière votre côté?
Ouais, écoutez, moi j'ai toujours considéré qu'on pouvait avoir la plus belle fédération, le plus beau projet, si on n'avait pas de sportifs ou d'équipes pour incarner le sport, eh bien, il manque le principal. On le voit avec le cyclisme, là, il y a avec le jeune qui vient d'arriver, Sextas, qui va redynamiser le cyclisme. On voit en tennis de table, etc. Donc, évidemment, avoir des champions français, avoir des champions qui portent une discipline d'un sport, c'est fondamental, c'est quasiment le plus important. D'où l'importance également pour les fédérations de veiller à travailler le haut niveau, à pas le délaisser, parce que on a besoin d'avoir des générations de champions pour porter notre sport. Et donc moi je suis très heureux de les avoir. Et en parallèle, évidemment qu'on travaille sur la génération future. Et c'est pas simple parce que ça s'inscrit sur un temps long. On est aussi un sport mécanique, donc il faut du financement. Et donc à travers nos deux grands champions français, on essaie de capitaliser et de profiter de cette caisse de résonance.
On est dans les grandes gueules du sport. Ouais. La MotoGP mérite-t-elle autant de reconnaissance que la Formule 1? On se pose la question.
C'est pas facile de concurrencer quand même les grands pays de moto que sont l'Espagne, l'Italie. Quand on voit une grille de départ aujourd'hui, il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. On a l'impression que c'est presque un championnat fermé entre ces pays-là. C'est difficile de s'immiscer.
Oui, alors dans ce pays. Peut-être la France est le plus grand pays au niveau du ranking FIM en termes d'activité de licenciés.
Alors qu'est-ce que c'est le ranking FIM?
Le ranking c'est quoi? C'est par rapport au classement des fédérations nationales au sein de la FIM. C'est nous qui délivrons le plus de licences, c'est nous qui rayonnons sur toutes les disciplines. Mais, alors,
sur toutes les disciplines.
Exactement. Motocross, vitesse, enfin enduro, trial. Ouais. Et donc évidemment
on est plus fort sur
ces. Sur le motocross, on a une vraie culture du motocross, une vraie culture de l'enduro. Sur la vitesse, on a des champions. Là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un peu plus de masse. Donc oui, l'Espagne, l'Italie aujourd'hui a la chance, ont la chance d'alimenter les championnats du monde. On a quand même
avec
un promoteur.
Plusieurs circuits en plus.
On a un promoteur international qui est espagnol. Pour ne rien vous cacher, moi j'ai rencontré hier les représentants d'Adorna pour voir et pour étudier les mesures qu'on pourrait mettre en place rapidement.
Les patrons de la MotoGP.
Pour partager une vision et pour faire en sorte qu'on soit totalement aligné, qu'on puisse bénéficier d'un accompagnement spécifique.
Alors, quand on veut faire de la Formule 1, ça coûte très cher aux parents. C'est évidemment une passion qui est très chère. Est-ce que c'est la même chose pour la moto ? Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, qui aimerait devenir pilote moto, est-ce que ça va coûter très très cher à ses parents ? Et comment y arriver ?
Tout est de plus en plus cher. Ouais, le vélo...
Attends, le prix des vélos, c'est pour ça.
Ils ont des moteurs vrai. Aussi sur les vélos.
Attention. Ça dépend lesquels.
Ah. Non, la Groupama, ils n'ont plus de moteurs.
Attention les polémiques. Pour l'anecdote, la Fédération Française des Motos, la délégation pour tous les véhicules terrestres moteurs de plus 25 km/h. Donc les vélos de plus 25, c'est dans la délégation de la Fédération Française des Motos.
Ah ouais, d'accord.
Donc ma trottinette qui va à 27,
c'est ton président.
Et on a un championnat de France de trottinette électrique.
Très bien.
Oui, tout à fait.
Donc si je résume bien, les vélos électriques sont affiliés
de plus 25
sont affiliés à la Fédération de
Motos. 250, ouais, tout à fait.
Ah d'accord.
C'est incroyable.
Comme j'ai la parole, est-ce qu'il y a des jeunes espoirs, à l'image de ce qu'on a en cyclisme avec Sexas, est-ce qu'il y a des jeunes espoirs en moto qui vont poindre ?
Est-ce que vous voyez arriver l'élu ?
Oui, on a.
L'élu
nous avons. Alors, je réponds en même temps à la question. Oui. C'est-à-dire que oui, on est sur un sport mécanique, donc il y a du matériel, et donc oui, ça coûte beaucoup plus. Ça coûte un peu plus cher que de pratiquer le basket ou le football. Ceci étant, notre rôle à nous, c'est de limiter ces coûts. Il y a des passages obligés qui nécessite un minimum d'investissement. Donc un championnat de France, on est autour de 30-40 000 euros la saison pour un championnat de France, pour toute une saison à minima.
40 000, d'accord.
Ensuite, on part sur des saisons internationales. Championnat d'Europe, c'est autour de 100 000 euros la saison. Donc à peu près, pour un parcours idéal, c'est 2 ans au niveau européen, 2 ans au niveau du Moto 3 Junior, où là, on est plus proche des 150-200 000 euros. Ça se finance. Mmh.
Hein, et vous, fédération, vous aidez à ce financement-là ?
Exactement. Nous, on aide aujourd'hui quasiment une dizaine de pilotes sur l'international Europe et championnat du monde, donc c'est beaucoup d'investissement pour
la
fédération.
Mais c'est quoi vos recettes ? Ce sont les licences ou vous avez d'autres sources de rentrée d'argent ?
Le financement de la fédération, c'est à peu près 25 millions d'euros. 70% de ces revenus proviennent des licenciés.
Okay.
On a une subvention de l'État qui est relativement faible, ce qui est plutôt une chance puisqu'on est à moins de 5%, mais c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins impacté lorsqu'il y a des diminutions de subventions.
Ouais.
Et puis du partenariat, du service qu'on apporte également. Donc on essaye d'être assez autonome en termes d'économie.
On est avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération Française de Motocyclisme. On est ici au Grand Prix Moto du Mans. Fred, tu voulais poser une question ?
Oui, non, je voulais poser une question pour revenir à la question initiale. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'avoir l'aura de la Formule 1? Parce que, effectivement, moi, je connaissais pas vraiment très bien. J'avais vu à la télévision, effectivement. Et quand je vois cet engouement, quand je vois cette...
T'es impacté.
Moi, je suis impacté parce que même l'ambiance, les gens sont super cool, etc. Et j'ai quand même l'impression, alors je suis désolé, je vais peut-être vous blesser, mais j'ai quand même l'impression que la Formule 1 est devant. Et qu'est-ce qui vous manque ?
Il y a une histoire avec la F1 en France aussi.
Est-ce que le fait de ne pas être passé en clair ou très ponctuellement, très très ponctuellement, est-ce que vous pensez que ça a un impact ?
Alors, on est passé en clair par le passé. Hein. Oui, il y a quelques années, dans les années 80, 85, on était en...
Pourquoi vous regardez Christophe tout de suite ?
J'essaie de me raccrocher à quelqu'un qui peut-être...
Oui, bien sûr, mais on en parlait hier.
Oui, dans tous les cas, l'auto est très populaire parce qu'on a tous une automobile. Donc, on est tous concernés par l'automobile. La moto, tous les motards sont concernés par le sport moto. C'est pour ça que ce côté communautaire, il est extraordinaire parce que les motards, y compris en 2026, se saluent, se respectent, s'apprécient. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des champions français, mais la très très grande majorité des spectateurs viennent voir des champions, des motards, des pilotes.
Mmh. C'est-à-dire que tous les gens qui sont ici au Mans, tous les gens qui sont ici aujourd'hui ont tous une moto. En gros.
En tout cas, quand on voit le parc moto aligné,
on a l'impression.
Et même ceux qui sont dans les campings, compte tenu des conditions d'accueil qui sont pourtant excellentes, mais malgré tout, il y a une communauté. On vient rechercher un moment de partage, un moment de plaisir, un moment d'échange.
Alors, même passion de la moto.
Exactement. Et je pense que ce que vous vivez, c'est la première fois et vous êtes embarqué pour la vie. parce qu'il y a quelque chose, il y a une âme. Ce sport, c'est un sport de passionné, c'est un sport où on ne triche pas, parce qu'on sait se mettre en danger, on se met en danger, et c'est un sport qui demande tellement d'investissement que tout le monde se reconnaît, tout le monde peut reconnaître ces valeurs-là. Donc, oui, je peux comprendre que lorsqu'on est loin du monde de la moto, on a du mal à le comprendre, et ça peut faire peur, mais quand on a la chance de pouvoir y accéder et toucher pour la première fois, on est piqué pour la vie. Et puis moi, ce que je dis, c'est que la moto, certes, il y a une part de risque, mais ce risque, c'est un sport comme tous les sports à risque. On apprend à faire de la moto, c'est encadré, il y a des écoles labellisées. Enfin, c'est un sport qui s'apprend.
Est-ce que c'est plus dangereux que le vélo aujourd'hui, la moto? La moto, quand même, on sent les pilotes protégés quelque part avec des grosses combinaisons.
Écoutez,
quand on chute à vélo aujourd'hui, on l'a vu.
Mais moi, je préfère chuter à moto qu'à vélo. Ouais. Hein, quand je vois comment les cyclistes descendent le Tour de France, moi, j'ai un collègue qui est dans le monde de la moto, de la vélo, je lui dis, mais je ferai jamais ça.
Ben maintenant, on parle d'airbag, hein, dans le cyclisme, potentiellement
le vélo est devenu un sport dangereux.
Les pilotes moto sont harnachés. Ils ont
une le sport mécanique, et je pense que le cyclisme a beaucoup à apprendre des sports mécaniques en général. Le sport mécanique, quand ça va trop vite, on sait faire ce qu'il faut sur le circuit et on sait faire ce qu'il faut sur la voiture ou sur la moto pour ralentir. Nous, le vélo, on est sur des endroits qui sont la voie publique, où tout est fait pour aller de moins en moins vite, et nous, on est restés assez bêtes et idiots pour essayer d'aller le plus vite possible avec des vélos qui vont encore plus vite que d'habitude. Et tant qu'on n'aura pas fait cette révolution intellectuelle, on deviendra un sport extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, c'est mon sport, le vélo est dangereux. Le vélo est dangereux.
Je sais que la fédération cycliste essaie de travailler évidemment.
Oui, mais on n'avance pas vite. Hein.
Mais il faut parce que je pense que en effet la bande de roulement en vélo est beaucoup plus restreinte que sur la moto. Et
c'est pas qu'une histoire de bande de roulement.
Ouais, bien sûr. Après il y a problème des freins.
L'aéro, les freins, tout.
En tout cas, pour répondre définitivement à votre question, moi je veux surtout pas opposer les sports. Je pense que la France a la chance d'avoir deux. C'est un pays de sport mécanique. On est ici au Mans, qui est un petit peu le temple des sports mécaniques, où tout est né ici. La moto s'est développée en même temps, le sport moto s'est développé en même temps que la moto se développait, l'auto également. Donc, je pense que c'est vraiment une chance pour notre pays que d'avoir toute cette culture des sports mécaniques.
C'est quand même pas dans l'air du temps, les moteurs thermiques, les motos, les voitures. Aujourd'hui, c'est plus vraiment à la mode. Est-ce que là aussi, vous faites des choses pour être justement dans l'air du temps?
C'est vrai qu'on voit la F1 qui passe aux 50% électrique, 50% thermique.
Bon alors, encore une fois, moi je considère que les sports mécaniques constituent une chance pour notre pays parce que c'est un lieu d'innovation, de recherche, c'est un lieu de performance. Alors on parle de la F1, l'hybridation permet aujourd'hui d'accélérer considérablement le mouvement de l'hybridation. La moto, en 2027, les motos seront avec des moteurs de l'énergie propre, du fuel propre. Donc il y a énorme l'électronique qui est venue aussi complètement impacter la sécurité.
C'est important de casser les idées reçues. Et
bien sûr qu'il faut casser les idées reçues. Moi je pense encore une fois que sur le développement durable et l'environnement, on n'a rien à envier à personne. On fait vraiment du sport propre. Il y a une prise de conscience de nos organisateurs et on est très très à l'aise. Nous, on a fait notre bilan carbone il y a quelques années avec l'automobile. On est à 258 kg équivalent CO2 pour un licencié NCO. C'est rien. C'est absolument rien. Donc il faut porter un discours positif. Il faut surtout pas opposer sport mécanique et environnement. Au contraire, on est là pour grandir ensemble. Il faut faire mieux ou aussi bien en impactant moins. Par contre, ça, c'est un travail qu'on doit faire collectivement. Mais les sports mécaniques peuvent nous permettre d'accélérer tout ça.
La MotoGP et la Moto2 et Moto3, ça va partir dans quelques instants. Vous entendez certainement les moteurs derrière nous. Merci Sébastien Poirier, président de la Fédération Française de Motocyclisme. Votre pronostic cet après-midi? On va voir en français dans la boîte.
Une petite Marseillaise, ça serait quand même sympa.
Ah, vous avez pris.
On s'habitue vite. Hein.
Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Voilà, c'est important d'avoir cette plongée finalement dans le monde de la motocyclisme. De la moto, alors qu'on est ici dans la Mecque de la moto française avec plus de 300 000 spectateurs attendus. On va continuer d'en parler de ce Grand Prix MotoGP avec le promoteur du circuit Bugatti qui va nous rejoindre dans quelques instants. Claude Michi va être avec nous. On va être un peu dans le cœur justement de l'organisation de ces événements pour savoir si la France est devenue une référence dans les événements sportifs aussi. On est avec les grandes gueules du sport ici au circuit du Mans. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport, en direct du MotoGP de France.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport depuis Le Mans, effectivement, dans la Sarthe pour les Grands Prix Moto, avec la Moto 3 qui va s'élancer dans quelques instants, Moto 2 également, et Moto GP, bien sûr, à 14h tout à l'heure. On va évidemment ouvrir la porte du vestiaire dans un instant en parlant de ce jour, de cette victoire qui change la vie, comme Johann Zarco l'année dernière, vainqueur sur le circuit à Bugatti. Souvenez-vous, évidemment, Zarco, l'émotion française.
Dernière accélération pour aller s'imposer, claquer une victoire retentissante sur ce circuit Bugatti au Mans devant 311 000 supporters qui sont en délire. Les derniers hectomètres pour le pilote canois, double champion du monde de Moto 2, c'était en 2015 et en 2016. Lui qui avait remporté son premier Grand Prix, c'était en Australie en 2023. La dernière réaccélération, vous allez entendre la foule, le bras tendu, Johann Zarco qui va s'imposer à l'occasion de ce Grand Prix de France. La 68e édition, c'est fait! Bingo! Bingo pour Johann Zarco, vainqueur du Grand Prix de France!
Ah, ça remet les poils, hein, les frissons quand on se replonge dans cette victoire de Johann Zarco l'année dernière, une première depuis 71 ans sur le Grand Prix de France. On est avec Marc Madurek, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux et Fred Weiss, et j'accueille Claude Michi, le promoteur du Grand Prix de France depuis 1994. Bonjour Claude.
Bonjour.
Je crois que l'année dernière d'ailleurs, vous étiez pas très loin du clan Zarco et avec Johann après ce moment. Comment on s'en souvient un an après?
Ben, j'ai encore l'émotion dans la voix là.
C'est vrai?
Ouais.
Pourquoi ?
C'est des choses qu'on n'oublie pas. Ben, moi, c'était le 32e ou 33e Grand Prix, comme je le dis. Je dis, j'ai travaillé 33 ans pour voir ça et pour le sentir. Mais je le sens encore, vous devez le sentir dans ma voix. Et j'ai eu la chance. Ouais, je suis un privilégié déjà dans la vie. Et là, j'avais le privilège, j'ai vu la course. J'étais descendu dans le box. Et j'étais derrière ses parents. Je pense à sa mère qui est disparue il y a très peu de temps, paix à son âme. Mais c'était des moments incroyables et qu'on vit peut-être qu'une fois dans une vie, quoi. Même s'il regagnait aujourd'hui, ça serait différent.
Non mais Claude,
première fois, c'est toujours.
Non mais on fait ça pour ça. Vous êtes avant tout un passionné avant d'être promoteur, un passionné. Vous avez construit aussi tout ça pour vivre des moments comme ça. Vous aussi humainement.
Oui, mais pour donner du plaisir aux autres. Cette chance qu'on a, c'est que vous voyez, hier soir, là, quand on a fait le show mécanique, Fabio est venu présenter sa nouvelle moto, du moins la nouvelle livrée, le nouveau design. Et donc, il y avait une ambiance fantastique. Les gens, on donne du plaisir aux gens. Moi, je dis qu'on essaye de créer du plaisir et de l'émotion. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important.
C'est ça, être un promoteur, c'est ça. C'est créer du plaisir, donner du plaisir, pouvoir... partager cette passion, c'est ça être promoteur.
On est là pour ça. Vous voyez bien la vie dans laquelle tous les gens sont. Il faut leur donner des soupapes de sortie. Et on est là pour ça. On est là que pour ça. Hein, pensez aux fans, pensez... Bon, nous, c'est un vrai pulse, parce qu'il y a tellement de gens qui travaillent. Moi, je suis une partie immergée, mais...
Combien de gens qui travaillent sur un circuit
On est 2000, il y a 2800 personnes
aujourd'hui.
Oui, entre vous avez 400 commissaires, ouais. Vous avez 600 personnes de contrôle, vous avez la sécurité, vous avez 150 ou 200 secouristes, etc. C'est une usine. Hein. Donc, il faut que tout ce beau monde... que ce soit Dorna, que ce soit nous, que ce soit le club de l'Ouest, il faut que j'arrive à faire vivre tout ça en même temps. Et c'est un beau pulse. Mais on a affaire qu'à des gens qui ont envie. D'abord, avant d'être professionnels, ils ont envie. Vous comprenez? Et on est dans un monde où on ne donne plus envie aux gens. Et donc, moi, je suis là pour donner de l'envie, du plaisir.
Claude Michi, le promoteur du Grand Prix de France, où on se trouve ici sur la ligne de départ arrivée. Hein. Il y a beaucoup de monde, évidemment, pour suivre les courses dans quelques instants. Sarah.
Alors, moi, je vais, pardon, Claude, d'être beaucoup plus terre à terre.
On va parler argent. Hein. Claude, parle que argent.
Non, mais
c'est bon, moi, je suis auvergnat, alors.
Donc, je ne vais pas vous en demander.
Quoique, quand même.
Non, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous assurez la pérennité d'un Grand Prix de France. On sait que le Grand Prix de France de Formule 1 a disparu. Il y a aussi le fait d'essayer de faire perdurer ce genre d'événement, parce qu'il y a le public, mais il y a aussi les gens derrière leur téléviseur. Comment on fait vivre un événement? Parce qu'il faut aussi que les partenaires continuent dans la durée. Donc, vous avez eu cette expérience-là. Je vous en parle parce que j'ai lu que on vous donnait aussi les clés de l'endurance et on vous demande de faire des miracles. En plus du Grand Prix de France, sur les Grands Prix moto d'endurance. Donc, il y a quand même une réflexion dans tout ça.
Je suis ni Messie ni Évangile. Hein. Donc, le seul chose, si vous voulez, c'est que la Formule 1, ils avaient en gros 16-17 millions de subventions. Ils ont perdu 30 millions quand ils ont tiré le trait. Vous voyez. Et moi, j'ai pas de subvention publique, donc je suis très détendu. C'est pour ça que de temps en temps, je discute avec le préfet parce que je suis pas d'accord sur les prix des services de police ou de gendarmerie. Donc, on se laisse pas
vous,
faire.
Vous dépendez de personne.
Non, on a la liberté. Vous savez, nous, on est des ruraux. Hein, moi, je suis un rural, donc je dirais que quand on marche sur les pieds d'un rural, il devient con, quoi. Donc,
en général, il est. Pas...
Vous savez que Marc
est la corde sensible de Marc Madiou.
Voilà, ben voilà. Non, et, budget Grand Prix, c'est 15 millions cette année.
Ah ouais.
Ouais. Donc c'est et puis. Vous êtes comme les alpinistes, hein. Si vous sortez pas par le sommet, vous êtes mort, hein. Vous restez dans la paroi. Hein.
Alors, Claude, aujourd'hui, Liberty Media, qui s'occupe de la Formule 1, se rapproche de plus en plus de la moto. Ouais. Est-ce que vous avez pas peur qu'on prenne justement les dérives de la Formule 1, que ça soit de plus en plus cher aujourd'hui, qu'il faille mettre un ticket énorme pour organiser un Grand Prix? Alors, comment ça va se passer pour vous?
Déjà, nous, on a signé jusqu'en 2031.
Ouais.
Le ticket, il est pas donné, mais ça fait partie du jeu. Après, c'est de la gestion, hein, faut être. Et puis, je pense que des gens comme Liberty Media, c'est des gens, j'ai rencontré le CEO, la Chang, c'est des gens intelligents. Ils savent que c'est pas la Formule 1, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes communautés. Donc là, ils sont en train de regarder et ils vont apporter certainement, je pense qu'ils peuvent apporter des partenaires au niveau du championnat du monde, des gens différents hors du concept ou du milieu. Le monde évolue, il faut savoir s'adapter. Donc, c'est simplement... Nous, on est un peu, je vais dire humblement, en référence mondiale. Donc, à partir de ce moment-là, tous les team managers, tout le monde vient nous remercier, nous féliciter.
En termes d'organisation?
Oui.
Référence mondiale
sur c'est je vois les team managers qui viennent nous voir, qui viennent dire, c'est génial, il faudrait que tu fasses d'autres grands prix. Non, mais le sujet, il n'est pas là. Je pense que chaque pays est différent. Le mode de consommation est différent dans chaque pays. Le petit déjeuner en Angleterre, c'est pas le même que chez nous. Et en Espagne, on mange pas à la même heure. Donc, si vous voulez, tout n'est pas adaptable partout.
Fred, on est avec Claude Michel, promoteur du Grand Prix du...
Est-ce que vous vous rendez compte que grâce à des personnes comme vous, la France est devenue une référence dans l'organisation d'événements?
Oui, mais vous savez, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, demain, on ira faire autre chose. On rejoindra le bon Dieu. Il y en a d'autres qui feront. Je crois qu'il faut rester humble vis-à-vis de tout ça.
Oui, mais on n'avait pas cette image-là avant. On a progressé dans l'image quand même.
Exactement. Je pense qu'on est un pays. Alors, il y en a qui critiquent en disant qu'on n'est pas un pays de sport. On en a souvent parlé ici. Mais
et
on
à
a
l'étranger,
un pays...
aller dire que les Français sont humbles, hein, alors qu'on a une image d'arrogant.
Oui. Mais on a un savoir-faire.
Non, mais
on a un savoir-faire d'organiser les plus grands événements mondiaux et pas que dans un sport.
Marc Madiot est en face de moi. ASO, Tour de France, Dakar et beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai une admiration pour quelqu'un que je ne connais pas qui s'appelle Monsieur Estanguet. JO, extraordinaire. Je veux dire, des gens... Alors, bien sûr, la basse-cour a dit « Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un sportif, il n'a rien dans le cerveau. » Non, mais il faut pas oublier ce qui s'est dit. Et alors que c'est certainement quelqu'un d'exceptionnel. Je ne connais pas, donc je suis très détendu. Mais moi, je trouve que ces gens-là, ils ont ménagé. Parce que l'idée, c'est d'apporter aux autres, si vous voulez, l'envie et de laisser s'exprimer à 100% de leur potentiel. Hein? Moi, je suis bac moins 7, hein, donc je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai rien. J'écoute ce qu'on me dit, j'essaye de trier ce qui me semble bien. Je donne un exemple précis. Hier, j'ai appelé Thierry Gomez.
Le président du Mans.
J'ai dit, écoute, Thierry.
Monte en Ligue 1.
Demain, je t'ai dit, il y a
trois mois. Président de club de Clermont, rappelle.
J'ai dit, écoute, je t'ai dit, il y a trois mois que tu montrais sur la dynamique. Donc, je le pense toujours. Il était à Bastia. J'ai dit, demain, si tu montes, on va faire défiler les joueurs.
Ah, ils vont défiler, là, les joueurs?
C'est ce qu'on annonce.
Je vous donne un scoop.
Ah, c'est cool.
Donc, ils vont être dans, j'allais dire, la charrette, parce que nous, c'est une charrette chez nous, hein. des pilotes, et on va faire défiler à 13h.
C'est sympa,
c'est rendre à la ville et à tous les gens de ce territoire les choses, quoi. Ça fait partie de...
Bon, et votre pronostic, c'est quoi? Ça va peut-être leur porter chance aux Français, tiens, peut-être d'avoir l'équipe de foot qui marche bien en ce moment dans le coin. Votre pronostic pour la course tout à l'heure?
Ils sont tous très bons. Ah. Ils sont tous très bons. Je suis français, c'est ou Quartararo ou Zarco.
Simplement. Merci Claude Michy, promoteur du Grand Prix de France, et merci pour tout ce que vous faites pour le sport aussi. On le voit bien. Vous avez parlé de Tony Estanguet, qui était évidemment la tête de Paris 2024, mais on sent qu'il y a un savoir-faire français dans l'organisation des événements, qu'il est important de mettre en avant toujours dans nos émissions sportives pour se rendre compte. Ben voilà, on se tape souvent dessus, mais ouais, regardez mais ce qu'on sait faire.
Voilà, c'est ça,
exactement.
Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.
Et bonne course évidemment à suivre. Et bravo d'avoir fait, d'avoir activé la pluie pour qu'on ait des courses encore plus spectaculaires aujourd'hui. Allez, dans un instant, on va accueillir tiens un champion, Renaud Lavillenie. Oh là, 5-4-2-1 et puis 0. Renaud Lavillenie va arriver pour parler avec nous, un grand fan de moto, bien sûr, le perchiste. On va ouvrir la porte du vestiaire pour parler de ce jour qui change tout dans la vie, cette victoire qui change tout, comme Juan Zarco l'an passé. Puis on va parler de la Ligue 1 aussi, multiplex ce soir. Cette saison, elle vous a excité finalement bah allez, on en parle ensemble au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du MotoGP de France.